Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Maïder Gérard, mais aussi Marguerite Caton, Mélanie Chalandon, Samuel Bernard et Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en monde ce matin par Jean-Frédéric. Dernier temps de notre semaine que nous consacrons au téléphone portable. Lundi, nous desséquions la bataille géopolitique autour de la 5G. Mardi, c'était l'Afrique et sa révolution technique sans précédent qui passait à la loupe. Et hier, nous nous inquiétions de la protection des données personnelles. Aujourd'hui, plongé dans la matrice de nos téléphones, la fabrication des smartphones, un désastre écologique et humain, c'est notre sujet ce matin dans Culture.
Ces gens extraient l'étain de leur plateforme en mer. Ils sont des milliers en activité sur toute la côte. Et le pire, c'est que la présence de poissons baisse chaque année. Les pêcheurs doivent aller de plus en plus loin. Ça nous inquiète beaucoup.
La rivière allait de là jusqu'à l'autre côté. Il y avait de l'eau partout et la rivière était bien plus large. L'usine de lithium pompe les eaux en perforant des puits dans le désert de sel. L'eau qui vient en principe d'en bas est donc pompée, ce qui fait que chez nous, les quantités d'eau diminuent.
Vous savez, les enfants, quand ils travaillent dans les mines, ils ne demandent pas beaucoup. Hein. Il suffit seulement de lui donner un petit 500 francs pour acheter un beignet. Ils n'ont pas beaucoup de besoins, en fait. C'est contrairement aux adultes, quand on les fait travailler et on négocie les contrats d'égal à égal. Mais avec l'enfant, c'est déséquilibrer les contrats.
Voilà, extrait de plusieurs documentaires, et notamment un documentaire qui avait été diffusé sur France 2 dans Cache Investigation en juillet 2015, Les secrets inavouables de nos téléphones portables, les effets de la fabrication de nos téléphones de l'Argentine à l'Indonésie en passant par la RDC, on les entendait un petit peu dans ce montage. En moyenne, nous changeons de téléphone portable tous les 2 ans, une durée de vie très courte pour un objet qui coûte excessivement cher à la planète. Il faut dire que nos téléphones portables sont composés de ces minerais les plus précieux, l'or, tantale, l'étain, le tungstène, le lithium, des matières naturelles disponibles en quantité limitée et dont l'extraction pollue énormément. Déversement de produits toxiques, radioactivité, émissions de gaz à effet de serre, contamination des sols, de l'eau, le bilan écologique est absolument désastreux. En plus du coût pour la Terre, s'ajoute le coût humain. Certains composants sont d'ailleurs surnommés les minerais de sang pour souligner leur lien avec des conflits armés locaux particulièrement sanglants, comme en République démocratique du Congo notamment, on en parlera. Alors quelle est l'empreinte réelle de nos smartphones? Peut-on réduire l'impact environnemental de ces objets high-tech? Un téléphone vert, éthique, est-il possible? Le recyclage, voire la réparation, pourrait-il réduire un tant soit peu son coût absolument astronomique? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités d'abord ici avec nous en plateau à Paris, Guillaume Pitron, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes journaliste, réalisateur. Vous avez mené une longue enquête, plusieurs années sur les métaux rares, vous en avez notamment tiré cet ouvrage que j'ai sous les yeux, La guerre des métaux rares, sous-titré La face cachée de la transition énergétique et numérique, au lien qui libère. Vous avez d'ailleurs reçu le prix du livre d'économie 2018 et je vous en félicite. À nos côtés, mais depuis Chambéry, en duplex, Françoise Berthoud, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes, vous, ingénieure de recherche en informatique au CNRS et directrice du groupe de services Eco-Info qui vise à étudier l'ensemble des impacts environnementaux et sociétaux des équipements concernés par les technologies de l'information et de la communication. Et vous êtes co-auteur par ailleurs des impacts écologiques des technologies de l'information et de la communication. C'était paru chez EDP Science en 2012. Quand on parle de téléphone portable, et je vais commencer avec vous, Françoise Berthoud, et de TIC, de technologies de l'information et de la communication en général, on ne pense pas forcément aux impacts physiques, matériels, et pour cause, on est dans le domaine du numérique, donc on est là dans le support de la dématérialisation de l'économie, et pourtant, c'est un secteur qui coûte énormément, je le disais, en termes d'énergie et de matériaux. La dématérialisation ne rime pas vraiment avec décarbonisation. On a une idée du coût en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'on sait mesurer l'empreinte carbone du secteur de la téléphonie mobile mondiale, Françoise Berthoud?
Alors, la téléphonie mondiale spécifiquement, j'ai pas vu de chiffres là-dessus. Mais par contre, ce qu'on sait mesurer, en tout cas qu'on a déjà évalué, c'est les émissions de gaz à effet de serre liées à l'ensemble du secteur des technologies du numérique, qui recouvre du coup pas seulement les smartphones, mais aussi les ordinateurs portables, tablettes, serveurs, réseaux, etc. Mmh. Et là, les chiffres connus aujourd'hui sont de l'ordre de quelques pourcents des émissions de gaz à effet de serre totales émises sur Terre. C'est à peu près l'équivalent de l'aviation civile aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut immédiatement rajouter quand on donne ce chiffre, c'est que c'est un chiffre qui est en pleine croissance, mmh. et que si on continue au rythme où on produit aujourd'hui ces technologies, on sera d'ici 2030 du même ordre de grandeur que l'automobile en émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est très significatif.
Et l'essentiel de l'empreinte environnementale, elle se concentre sur la phase de fabrication, j'imagine, la distribution, l'usage, la fin de vie du portable, tout ça, ça des empreintes moins fortes, même si elles sont pas négligeables.
Alors, effectivement, et plus les objets sont petits, et plus c'est la phase de fabrication qui domine, qui peut dominer beaucoup, hein, jusqu'à 80%. Après, ça dépend évidemment des émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par l'utilisation d'équipements. Ça dépend aussi du type d'équipement. Par exemple, sur les serveurs, la phase d'utilisation, elle est aussi assez émettrice puisque c'est des équipements qui tournent 24 heures sur 24. Voilà, donc pour résumer, disons, plus l'objet est petit, plus c'est la phase de fabrication qui est émettrice en gaz à effet de serre. La phase de transport, elle est pas complètement négligeable. Alors on a longtemps pensé qu'on allait même pas la regarder. En réalité, et comme on a tendance maintenant à avoir des exigences en termes de délai de livraison assez court, du coup, il y a pas mal de biens qui sont acheminés par avion. Donc la phase de transport devient non négligeable à l'échelle de la durée de vie d'un ordinateur portable, par exemple, ou d'un smartphone.
Vous disiez que l'impact était de plus en plus important. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus en plus de smartphones qui sont produits, ou est-ce que c'est parce qu'à mesure qu'ils se perfectionnent, le coût carbone est plus fort? Je vais poser la question autrement. Est-ce que les derniers modèles de smartphones ont un bilan carbone plus lourd que les anciens modèles? Est-ce que l'innovation, au fond, a un coût écologique? Voilà.
Alors, ça, c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à il y a 10 ans, disons, si on compare aux anciens modèles de téléphone, qui sont encore utilisés quand même par au moins 20% de la population française, hein, c'est pas non plus complètement has-been. Donc ces téléphones-là, les mobiles classiques, ils émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre au moment de leur fabrication, ne serait-ce que parce qu'ils utilisent beaucoup moins de métaux différents, et que la phase d'extraction des métaux est fortement émettrice en gaz à effet de serre. Après, entre un modèle d'il y a 2 ans et un modèle d'aujourd'hui, on n'a pas les données pour répondre précisément à cette question. On imagine que ça ne diminue pas. Mais en tout cas, le nombre de smartphones, par contre, en vente, continue d'augmenter, même si sa croissance diminue.
Il a un tout petit peu baissé là l'année dernière, tout petit peu. Ça fléchit,
ça commence ça commence à diminuer.
Guillaume Pitron, il faut maintenant regarder de quoi est fait notre portable. J'en ai un là sous la main, on en a quasiment tous. Parmi les matériaux absolument essentiels qu'on retrouve dans ces téléphones portables, les métaux rares. Est-ce que d'abord vous pouvez nous rappeler ce qu'on appelle des métaux rares, et puis on va regarder le désastre écologique qu'il y a derrière, Guillaume Pitron?
Françoise Berthoud l'a très bien dit, d'abord il y a une complexification de ces téléphones. Dans les années 50, le bon vieux téléphone fixe, il y avait 12 métaux à l'intérieur. Et puis le GSM qui faisait la taille d'une brique dans les années 90 s'est complexifié, il y avait à l'intérieur environ 29 métaux. Et aujourd'hui, le smartphone, toujours plus petit, contient... paradoxalement, peut-être toujours plus de métaux, il en contient jusqu'à 55. Donc ce qu'on voit bien, c'est effectivement cette complexification, et donc ce téléphone est fait de jusqu'à 55 métaux. Il y a des métaux dedans qui sont des métaux tout à fait communs, entre guillemets, on trouve de l'aluminium, on trouve du cuivre, c'est pas des métaux spécialement rares.
En tout cas qu'on a l'habitude d'extraire depuis très longtemps.
Voilà, tout à fait. Et puis on trouve aussi dans ces téléphones ces fameux métaux rares. Alors qu'est-ce qu'on appelle un métal rare ? Un métal rare, c'est un métal qui est beaucoup plus rare qu'un métal abondant. C'est un sous-produit de l'industrie minière. Dans la mine, on trouve donc tous ces grands métaux, mais associés naturellement dans l'écorce terrestre, dans la roche, à ces grands métaux, il y a des petits métaux qui sont présents dans des proportions 1000, 2000, 3000 fois moindres. On savait leur existence jusque dans les années 60, mais on ne leur avait pas trouvé d'application industrielle. Et puis, il y a eu une accélération de la recherche, de l'innovation. À partir des années 70 et au tournant des années 80, on s'est rendu compte que ces métaux étaient parés, on le savait, de propriétés chimiques absolument extraordinaires et qu'on pouvait les utiliser pour toutes sortes d'applications technologiques, y compris pour nos fameux téléphones portables. L'avantage de ces métaux, c'est qu'ils permettent de faire des petits objets. Mmh. Si le GSM des années 90 faisait la taille d'une brique, c'est parce qu'il y avait à l'intérieur des composants qui étaient, pour une masse égale, beaucoup moins efficaces. Et grâce à ces métaux rares, eh bien, en fait, on conserve la même efficacité, mais en faisant, par exemple, des aimants qui sont 10 fois, 7 à 10 fois plus petits. Plus petit, d'où miniaturisation. Et donc, ces téléphones sont truffés de métaux rares de toutes sortes. Je peux d'ailleurs vous en donner quelques exemples et vous dire à quoi ils servent dans le téléphone, pour justement permettre des téléphones qui soient plus efficaces, plus plus miniaturisé, puisque vraiment ce que permettent ces métaux, c'est bien un monde plus petit qui tient dans la poche.
Et puisqu'ils sont plus rares par définition, pour les extraire, il faut sortir des volumes de terre absolument gigantesques, et on voit tout de suite le désastre écologique que ça représente. D'ailleurs, quand on regarde un peu des photos de ce que ça signifie concrètement sur le terrain que d'extraire ces métaux rares, on voit des mines absolument gigantesques et les mètres cubes de terre, les milliers ou les millions de mètres cubes, j'en sais rien, de terre qu'il faut déplacer.
Là, ce sont d'abord souvent des mines à ciel ouvert. Moi, personnellement, je suis allé jeter un coup d'œil notamment dans les mines de terre rare, qui est un composant des téléphones portables, parce que vous avez un petit bout de terre rare qu'on appelle le néodyme, qui se trouve dans l'aimant de votre téléphone. Comme vous êtes poli et professionnel, vous avez mis votre téléphone sur mode vibreur. Ouais. Et si le téléphone
même
vibre...
Sur le mode avion.
Et bien, si le téléphone vibre, c'est parce qu'il y a un aimant de terre rare qui est à l'intérieur, est fait notamment d'une terre rare. Et bien, les mines de terre rare, effectivement, c'est un désastre. D'abord au niveau de l'extraction, parce que vous l'avez très bien dit, pour extraire cette terre rare, il faut déjà retourner pas mal de volume de cette roche. Et puis ensuite, il y a le raffinage, qui n'est pas un processus raffiné. C'est-à-dire qu'il va falloir séparer la roche des métaux, et puis après, séparer les métaux entre eux. Il faut beaucoup d'acide, sulfurique et autres, pour permettre en fait cette séparation. C'est un processus assez long et répétitif. Il faut quelquefois des dizaines d'opérations de nettoyage avec ces acides pour en fait parvenir à purifier un métal rare à 100%. Il faut beaucoup d'eau au passage, et à l'arrivée, eh bien, les eaux sont souvent rejetées, chargées de tous ces acides et des rebuts et des métaux lourds directement dans la nature. Donc il y a un coût également en termes de pollution environnementale au moment du raffinage.
Et si on fait un peu de géographie, vous disiez que vous aviez eu l'occasion de visiter un certain nombre de ces mines. Où est-ce que se situe le désastre écologique ? Il est où là ? Faisons une petite carte.
Alors, je vais vous raconter du désastre écologique que moi j'ai pu constater, soit en étant sur le terrain, par exemple en Chine. En Chine, vous avez besoin de terres rares, ça se passe dans le nord de la Chine, en Mongolie intérieure, pas loin de la frontière avec la Mongolie. Ça se trouve également dans la province du Jiangxi, au sud de la Chine, au sud-est, il y a des mines de terres rares également là-bas. Il y a du graphite dans vos téléphones, c'est un sous-produit du charbon, ça c'est dans la province du Shandong et dans la province de Heilongjiang en Chine. Il faut de l'étain, tout à l'heure on a entendu justement un petit bout de reportage sur l'étain, ça c'est plutôt l'île Bangka où j'étais également en Indonésie. Il faut du lithium, donc je vous emmène en Amérique latine, il faut quelques grammes de lithium pour la batterie de votre téléphone. Il faut du cobalt, je pense qu'on en parlera, c'est l'une des grandes stars de l'année 2018, le cobalt. Il faut 8 grammes de cobalt dans votre téléphone, donc nos auditeurs ont 8 grammes sur eux de ce cobalt qui se trouve en République démocratique du Congo.
Sur la Mongolie, vous en parliez à l'instant, vous dites qu'il y a des véritables villages entiers qu'on appelle des villages du cancer, où les gens meurent les uns après les autres justement à cause de l'activité minière. Vous évoquez dans votre village, et puis je vais vous donner la parole dans un instant, Françoise Berthoud, mais on va poursuivre un tout petit peu avec vous, Guillaume Pitron. Dans votre livre, vous parlez d'une délocalisation de la pollution. C'est une formule que vous utilisez. Vous écrivez que les réglementations ont progressivement délocalisé les activités minières, particulièrement sales, notamment dans des pays comme la Chine, vous le disiez, qui était prête, je vous cite, à sacrifier son environnement pour récupérer une part de la richesse produite par ces métaux rares. Donc on a volontairement externalisé les coûts environnementaux de la production de nos smartphones.
C'est exactement ça. En fait, nous avons besoin de ces métaux, mais nous ne voulons pas en supporter le coût environnemental qui est déplorable. Et pendant un temps, l'Occident avait cette production de terres rares, par exemple, le fameux néodyme, cette terre rare qui rentre dans l'aimant de votre téléphone portable. Et c'était les Américains qui produisaient les terres rares dans une mine à la frontière californienne Nevada. Et c'était les Français d'ailleurs qui raffinaient 50% des terres rares de la planète dans les années 80-90. Les coûts de l'extraction et du raffinage étaient tellement élevés qu'on a préféré délocaliser une bonne partie de ces activités, fermer les usines, fermer les mines. Et au même moment, la Chine a dit « mais moi, j'ai tout ça, j'ai des réserves de terres rares et puis je peux ouvrir mes usines, je suis prêt à sacrifier mon environnement, mais j'ai besoin de m'enrichir. » L'environnement, c'est pas un problème, messieurs les Occidentaux, ne vous inquiétez pas, on gérera ça de notre côté. Les Chinois vont s'en vouloir, mais ils ne le savent pas encore. Et en revanche, ils vont produire ces métaux à notre place. Et donc, nous retrouvons finalement, dans le sens inverse, le minerai qui a été transformé en métal, purifié, voire d'ailleurs le téléphone portable à l'état fini, puisque maintenant c'est la Chine qui produit une bonne partie de ces petits jouets. Et donc nous avons en face de nous un objet beau, agréable à regarder, qui dégage une espèce d'impression de pureté, et pourtant toute la pollution au niveau de la fabrication, et Françoise Berthoud disait que c'est au niveau de la fabrication que c'est l'impact environnemental qui est le plus lourd, tout ça on ne le voit pas. Et donc on croit dans un monde immatériel, en réalité c'est un monde extrêmement matérialiste, et c'est un monde qui pollue et on ne s'en rend pas compte.
Françoise Berthoud, on est là au cœur d'un des paradoxes absolument fondamentaux quand on parle de téléphonie mobile, parce que comme on le disait, il y a eu effectivement un certain nombre de réglementations au niveau de l'Europe, au niveau de l'ensemble du monde, on va y revenir aux États-Unis, la loi Dodd-Frank, on va en parler dans quelques instants. Alors quand on voit évidemment toutes ces réglementations, on se dit bah c'est très bien, tant mieux, ça veut dire qu'on est en train un petit peu de nettoyer le secteur et que d'une certaine manière le coût environnemental sera moindre. En réalité, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et quand on regarde les choses d'un point de vue global, Françoise Berthoud, on voit que la catastrophe écologique, elle est bel et bien là.
Oui, alors la catastrophe écologique, elle se situe à plusieurs niveaux qui sont donc effectivement plus ou moins réglementés. Il y a tout ce dont Guillaume Pitron a parlé quand il a évoqué les processus qui permettaient de raffiner et d'extraire les métaux, qui sont en soi très polluants. Et donc ça a des impacts locaux. Donc effectivement, on ne les voit pas. Ils se situent tous loin de chez nous. Et en plus, comme vous le savez, les études épidémiologiques ou les études d'impact sur la biodiversité ou etc. de ces produits sont difficiles à établir en fait. Donc même quand on le veut, c'est compliqué de faire des preuves entre la présence d'un métal, d'une terre rare, d'un métal lourd dans le sol et l'émergence de cancer. On le voit bien même chez nous en France sur d'autres industries. Donc il y a tous ces problèmes-là qui se passent, qui sont donc de la pollution directe. On a pu aussi d'ailleurs ça c'est assez intéressant à noter, remarquer que donc ces pollutions, elles vont jusqu'aux nappes phréatiques et du coup ça va jusqu'aux cultures par l'intermédiaire des eaux d'arrosage, et du coup on peut se retrouver avec des productions qui sont elles-mêmes polluées. Alors, d'ici à ce que ces productions nous reviennent chargées des métaux lourds résidus de nos objets électroniques, peut-être c'est un peu rapide de faire ce saut, mais disons, c'est dans le domaine du possible. Donc, c'est une réalité. Et puis en plus, je voudrais rajouter un point sur la pollution liée aux métaux lourds et à un certain nombre d'autres produits qui sont utilisés dans ces contextes, c'est que ce sont des substances qui sont bioaccumulables. Donc ça veut dire que les organismes vivants sont pas capables d'évacuer les produits en question, donc les métaux lourds par exemple, et du coup au fur et à mesure de la chaîne alimentaire, et ben ce sont des métaux qui se concentrent dans les organismes. Donc on se retrouve avec une propagation de la pollution, vous voyez, à partir d'une mine, à partir d'un site de recyclage qui va polluer, je sais pas, une algue, un invertébré, et puis on va se retrouver avec une propagation qui va parcourir toute la chaîne alimentaire. Donc ça, c'est vraiment des effets qu'il faut maintenant observer, et il faut prendre conscience de ça.
Je voudrais revenir, Françoise Berthaud, avec vous sur la question de la législation, parce que comme l'expliquait Guillaume Pitron, il y a eu effectivement des effets directs de cette mise en place de réglementations européennes, mondiales, américaines, sur les filières d'approvisionnement. Mais j'aimerais comprendre lesquelles exactement. On va prendre un exemple très concret, qui est la loi Dodd-Frank, qui est une loi américaine qui avait été votée en 2010 suite à la crise des subprimes. Et l'un des volets précisément concernait l'encadrement de l'extraction de minerais. Elle obligeait les entreprises cotées en bourse à informer sur l'origine des minerais utilisés dans les produits qu'elles commercialisent. Je voudrais essayer de comprendre les conséquences de cette loi, par exemple celle-ci, hein, dans la fabrication de smartphones. Est-ce que améliorer, en tout cas essayer d'améliorer les conditions d'extraction, ça a eu des effets sociaux, humains, pour les populations concernées par le désastre qu'on décrit, Françoise Berthaud?
Alors ça, je serais bien incapable de vous répondre précisément. Peut-être que Guillaume Pitron a des éléments là-dessus. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut observer, c'est que un des effets de cette loi, c'est qu'il y a eu quand même une prise de conscience de ce qui se passait. Il y a maintenant les grands acteurs que sont les producteurs de ces équipements. Ils prennent en considération ces problématiques, pas seulement parce qu'il y a les lois, mais aussi parce qu'ils ont pris conscience des problématiques, et aussi parce que les clients qui veulent acheter ces équipements, ils sont peut-être un petit peu soucieux. Vous voyez, par exemple, c'est aussi, on en parlera peut-être du Fairphone, hein, mais
c'est aussi une des démarches. C'est prévu. Mais du coup, je vais poser du coup la question à Guillaume Pitron sur la loi Dodd-Frank. Est-ce qu'elle a eu des effets, cette fameuse loi, sur les filières, sur l'activité minière mondiale? Vous nous expliquiez tout à l'heure que effectivement c'était la Chine au fond qui avait pris la charge du coût écologique de la fabrication de nos smartphones. Est-ce que la loi Dodd-Frank a changé quelque chose?
Ce que peut-être la loi Dodd-Frank a permis, c'est que c'est une loi quand même qui a quelques années. C'est les Américains qui ont les premiers légiféré sur la question, et ça arrive en Europe. Et l'OCDE s'est positionné également sur les minerais de conflit, ceux notamment qui proviennent du Kivu, où on extrait du coltan et on trouve du coltan dans les téléphones portables. Et il y a un règlement européen qui va rentrer en application en 2021 en Europe. Et l'enjeu de ce règlement, c'est bien justement d'appliquer, si je puis dire, au niveau communautaire, ce qui avait été décidé quelques années plus tôt dans la loi américaine avec cette loi Dodd-Frank. Donc on voit qu'il y a un effet de transmission, de porosité entre cette réglementation américaine et puis le fait qu'on en prend conscience aussi côté européen quelques années plus tard. Déjà, je peux dire ça. Ensuite, ce que je peux préciser aussi, c'est que souvent, ces réglementations s'appliquent aux minerais de conflit. Comme c'est médiatisé, ce qui se passe au Kivu, on parle de...
Donc en République démocratique du Congo.
Voilà, excusez-moi, en République démocratique du Congo. Eh bien, comme c'est médiatisé, forcément, l'impact, le souci du producteur de téléphone portable, ou qu'il soit dans la chaîne de production, va être de traiter les enjeux militaires, de sécurité, qui peuvent se nouer autour de ces métaux dans cette zone particulière. En revanche, pour ce qui est des autres métaux, et comme je vous ai dit, il y en a jusqu'à 55 dans un téléphone, on n'en parle pas. On ne parle pas forcément de la question de savoir d'où viennent les terres rares, et pas davantage le lithium. Et donc, en fait, on a limité la notion de conflit à des conflits militaires, mais on pourrait tout à fait parler de conflits sociaux, de conflits environnementaux. Mmh. On pourrait aussi essayer d'étendre cette loi à d'autres types de conflits qui ne sont pas nécessairement ceux qu'on a l'habitude de médiatiser depuis une vingtaine d'années au Kivu. Donc, il faut élargir en fait le champ d'application et toucher beaucoup plus de métaux que les métaux qui sont spécialement visés.
Mais si on prend le cas du Kivu, justement, vous parliez du coltan. Effectivement, 80% des réserves de coltan qui sont utilisées notamment dans nos batteries de téléphone, elles se trouvent en République démocratique du Congo. On sait que ce pays est en proie à une instabilité sécuritaire et politique depuis très longtemps, avec un cycle de violence dans certaines régions, notamment dans le Nord Kivu, que vous avez évoqué tout à l'heure, dont on ne parvient pas à sortir. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut faire un lien entre, au fond, l'activité minière et l'instabilité politique du pays de façon générale? Et si on prend ce cas en particulier, est-ce que la loi Dodd-Frank a permis de faire diminuer un peu les violences autour de l'activité minière, ou est-ce que ça n'a eu aucun effet?
Alors, sur le deuxième point, je serais comme Françoise Berthoud, je serais bien incapable de vous dire très précisément. Ouais. D'autant qu'en plus, le Trump veut revenir sur cette loi Dodd-Frank aussi. Mais sur le premier, c'est évident en tout cas qu'il y a un impact. Je veux dire, le commerce de coltan finance des groupes paramilitaires et on sait combien ça a pu déstabiliser le pays. Et on sait également combien la région en a souffert sur le plan humain. Sur le second aspect, je vous avoue que c'est difficile d'y répondre. On sait aussi qu'il y a un trafic de coltan qui part illégalement vers le Rwanda. Le Rwanda se retrouve producteur de coltan qui n'est en réalité pas du coltan qu'il produit lui-même, mais qu'il a simplement acheté de l'autre côté de la frontière. Et puis, c'est une façon de blanchir l'origine du minerai, de continuer à utiliser ce minerai made in Rwanda, alors qu'il n'est pas made in Rwanda, et donc du coup de dire, bah non, finalement, moi j'achète un minerai qui est propre et qui ne génère pas de guerre civile. Donc voilà une limitation, si je puis dire, en tout cas à cette loi, qui est forcément appliquée de façon imparfaite.
On va parler dans un instant avec vous, Françoise Berthoud, de ce fameux Fairphone, hein, parce qu'on essaye de construire, de fabriquer des smartphones éthiques. On va voir si ça fonctionne. Mais d'abord, un tout dernier mot, Guillaume Pitron, parce que vous nous avez expliqué qu'au fond, la Chine avait pris à sa charge le coût écologique de la fabrication de nos portables, mais vous nous aviez aussi précisé qu'elle le regrettait aujourd'hui, parce qu'effectivement, compte tenu du désastre écologique que ça représente, ça devient un véritable problème. Jusqu'où c'est un problème et jusqu'où, au fond, la Chine pourrait revoir justement ses pratiques, son activité minière, son extraction de métaux rares, de terres rares. Pour le dire autrement, on sait que c'est devenu évidemment un enjeu majeur, l'enjeu écologique. C'est d'ailleurs tellement essentiel que c'est quasiment un enjeu de survie pour le régime en réalité. Est-ce que ça change quelque chose pour la Chine? Je veux dire, est-ce que la Chine elle-même pourrait se dire, bah, puisqu'on avait externalisé vers chez nous, bah, faisons la même chose. On n'a qu'à externaliser au fond l'activité minière qui sert à fabriquer notre portable. Comme ça, on ne portera plus ce coût écologique.
Exactement. Alors d'abord, la solution idéale, on y viendra peut-être, ce serait le recyclage. Ce serait une façon de limiter nos besoins de matières premières, d'éviter d'aller creuser toujours plus profondément. Simplement, on y reviendra peut-être, mais on recycle très peu de ces métaux rares dans les téléphones. Alors du coup, il faut continuer à creuser. Et là, la Chine, elle se retrouve, eh bien, avec l'effet boomerang de sa politique industrielle initiée sous Deng Xiaoping. La pollution en Chine est colossale. C'est une pollution, les médias en parlent notamment de l'air, hein, on voit ça dans les villes, mais c'est aussi une pollution des sols, une pollution des rivières, une pollution des phréatique. Et c'est devenu un tel problème en Chine que la majorité des manifestations dont des troubles sociaux en Chine sont liées à des questions environnementales. Et donc c'est un enjeu de survie pour le Parti communiste que de nettoyer cette pollution, que de dépolluer les centres-villes et que de limiter l'impact de son activité minière. Il se trouve que je vais bientôt en Chine et que je vais aller regarder un peu tout ça de tout près. Et ce que je sais déjà, c'est qu'il y a des mines de graphite qui ont fermé ces dernières années pour justement répondre à ces enjeux écologique. On est dans une dictature et donc du coup, quand on est dans une dictature, on peut vite faire évoluer le secteur minier, par exemple. Il n'y a pas de procès, pas de tribunaux, donc ça peut changer très vite. Et oui, ça change. Et donc ça change, ne serait-ce que parce que déjà, la production de ces minerais est peut-être moins sale aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Et on peut imaginer que ça va aller toujours un peu mieux parce qu'il y a cet enjeu écologique. Et puis, vous l'avez dit, la Chine se rend compte qu'elle ne peut peut-être faire avec elle-même ce que nous avons fait avec elle, c'est-à-dire qu'elle peut délocaliser sa pollution. Et la Chine aujourd'hui, mais oui, bien sûr qu'elle le fait, et j'en ai même parlé à un trader l'autre jour, un trader occidental, qui justement opère une mine de terres rares en Afrique et qui ces terres rares sont rachetées par les Chinois et qui disait, les Chinois délocalisent à leur tour. Et donc, on se retrouve avec la Chine qui va chercher ses minerais en Afrique, toutes sortes de minerais, elle a sécurisé 80% du cobalt produit par le Congo. C'est pas alors, soit c'est des matières qu'elle n'a pas chez elle et qu'elle est obligée d'aller sécuriser ailleurs, soit c'est des qu'elle a chez elle, mais qu'elle ne veut plus aller chercher. Et donc, du coup, on se retrouve avec d'autres pays qui sont pollués pour la Chine et, in fine, pour l'Occident.
Bon, introduire un peu plus d'éthique, on va voir si c'est possible. Vous aviez évoqué tout à l'heure, Françoise Berthoud, Fairphone, qui est une entreprise qui a été créée en 2013, une entreprise néerlandaise, qui produit des smartphones dont la conception et la production sont pensées pour limiter justement les effets environnementaux et sociaux. Je propose d'abord d'écouter son créateur, le créateur du Fairphone, Bas Van Abel.
C'est un téléphone comme un autre, et il peut faire tout ce que fait un autre téléphone. Mais c'est aussi un moyen de faire changer les choses. C'est ça le but du Fairphone. On utilise ce téléphone pour améliorer la chaîne de production, depuis les mines jusqu'aux usines. On l'a fabriqué pour que les clients puissent facilement changer l'écran, juste en le déclipsant du téléphone. Comme cela, les gens peuvent le réparer eux-mêmes s'il casse. Et c'est pareil pour les autres pièces du téléphone. Avec un tournevis, les gens peuvent changer ces pièces et même les remplacer par des plus performantes.
Bon, bah voilà une excellente idée, Françoise Berthoud, hein, un téléphone portable qui serait plus éthique, qui serait modulaire, dont on pourrait changer les différentes pièces. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de ce Fairphone? Est-ce que ça marche? Et globalement, est-ce qu'on peut faire un smartphone éthique? Est-ce qu'on y arrive, Françoise Berthoud?
Alors, plusieurs questions. Déjà, est-ce que ça marche sur le plan éthique? Eh bien, ça a fait changer quelque chose. En tout cas, l'effort qu'a fourni l'équipe de conception du Fairphone a vraiment marqué les esprits. Mais malheureusement, ça reste quand même encore un tout petit segment. Le Fairphone dans l'immensité du volume du marché des Fairphones, des smartphones, pardon. Mmh. Hein, c'est intéressant d'avoir en tête quelques chiffres. Hein. Juste, je vous en donne. En 6 ans, entre 2012 et 2018, on a vendu dans le monde presque 9 milliards de smartphones. Vous voyez, c'est plus que la population mondiale. Hein. Mmh. C'est colossal. Là-dedans, le Fairphone, c'est tout petit. Mais c'est petit, mais ça marque parce qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup parce qu'il est réparable, parce qu'il y a un effort justement qui est fait sur la chaîne de production et notamment de certains métaux, pas tous les métaux, hein, juste quelques-uns.
On en parle beaucoup, mais on l'achète pas, Françoise Berthoud.
Alors, on ne l'achète pas encore. On peut le louer maintenant. Il y a une société à Paris qui s'appelle Common qui a mis en place un système, en tout cas un modèle économique qui vise à louer ce téléphone. Effectivement, pour l'instant, il n'est pas suffisamment acheté. Pour autant, il est moins cher que le dernier iPhone. Et puis, sa batterie se change, etc. Il n'y a pas que l'écran qui se change.
Oui, j'ai regardé sur le site hier, c'est vraiment beaucoup moins cher. Hein. Je ne vais pas faire de la publicité, mais c'est vraiment beaucoup moins cher.
Ah
après,
ouais, c'est beaucoup moins cher.
Mais Françoise Berthoud, pourquoi est-ce qu'on n'en achète pas et comment est-ce qu'on pourrait pousser le consommateur à avoir un comportement plus éthique et à se tourner du coup vers ce type de produit?
Alors, écoutez, moi, personnellement, j'en ai un. En tout cas, que j'ai beaucoup utilisé depuis plusieurs années. Ce que j'entends autour de moi, c'est ça serait moins performant sur le plan de la rapidité, etc. Franchement, c'est pas mon constat. Moi, j'ai l'impression que très vite, autour des smartphones, il y a une espèce de vague qui montre que les smartphones devraient être hyper performants. Mais en fait, dans l'ensemble de la population, il y a une partie de la population française qui veut des smartphones hyper performants pour faire tourner des jeux, de la 5G, etc., etc. Mais il y a une autre partie de la population qui n'a pas besoin de ces performances. Et en fait, ce téléphone-là, il convient très très bien pour, à mon avis, l'essentiel des besoins.
Alors donc, puisque ça convient, puisque ça répond aux attentes, Françoise Berthoud, comment est-ce qu'on peut faire, je repose la question, pour pousser les consommateurs vers ce type de produit? Est-ce que, par exemple, je donne une idée comme ça au hasard, mais est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, forcer les fabricants de téléphones portables à inscrire sur les boîtes des téléphones des modèles qu'ils vendent, à écrire par exemple le coût écologique, l'empreinte carbone de ce téléphone, de sorte à ce que le consommateur, lorsqu'il achète, il voit à peu près ce que représente en termes environnementaux la fabrication de son portable et qu'il puisse choisir. Il y a plein d'appareils électroniques pour lesquels maintenant aujourd'hui c'est ça, et donc le consommateur peut acheter en connaissance de cause. Aujourd'hui, c'est pas le cas.
Oui, mais l'empreinte carbone entre le Fairphone et le smartphone truc, elle va pas être très très différente en fait. La grosse différence entre le Fairphone et un Samsung X ou un iPhone X, c'est pas tellement l'empreinte carbone à la fabrication, puisque finalement on est à peu près dans le même genre de métaux utilisés, le même genre de technologie. Non, c'est le fait que le Fairphone se répare, et que donc il va pouvoir durer plus longtemps, avoir une durée de vie supérieure, et puis le fait qu'il y a un effort qui est fait sur la provenance des métaux. C'est ça la grosse différence, et ça c'est beaucoup plus difficile à chiffrer avec une lettre ABCDE, comme on fait sur l'énergie, ou qu'on pourrait imaginer de le faire sur l'impact carbone.
Guillaume Pitron.
Oui, peut-être que le fabricant de téléphones portables a intérêt aussi nouer davantage de partenariats avec le Fairphone pour proposer des offres d'abonnement internet et téléphonie associées à l'achat à un prix avantageux de ce téléphone. Or, et ça, ça faciliterait la commercialisation de l'iPhone, du Fairphone. Or, aujourd'hui, les groupes de téléphonie qui proposent ce type d'offres sont très limités, et donc le Fairphone souffre aussi de ça. Et donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à connaître son existence et à l'acheter. Je précise, parce que j'en ai parlé l'autre jour à quelqu'un qui a son Fairphone et qui m'a dit, j'ai mis aussi plusieurs mois entre la commande et la réception, il s'est passé plusieurs mois parce que ça mettait du temps de le fabriquer. Vous avez parlé de l'intensité carbone, c'est très intéressant parce que effectivement on ne connaît pas forcément très bien, on ignore qu'est-ce qu'il en coûte d'un point de vue écologique. Et plus loin que l'intensité carbone, c'est l'intensité matière. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de matière pour un téléphone. Ce qu'on ne sait pas, c'est que pour un téléphone de 120 grammes, il faut 70 kilos de matière qui a été mobilisée en amont, toute matière confondue, pour arriver à ce petit résultat très joli, très beau de 120 grammes. Si vous faites le calcul entre 120 grammes et 70 kilos, c'est un ratio de 1 à 583. Donc il faut 580 fois plus de matière, généralement très loin de chez vous, pour arriver à ce produit-là. Moi je propose qu'au dos des téléphones, on marque l'intensité matière, et qui est marqué, il a fallu faire un trou de 70 kilos dans le sol pour pouvoir vous acheter votre nouveau téléphone. Et si vous voulez le changer au bout de 2 ans, on fera un trou de 70 kilos. Et peut-être que ça fait partie de ces indicateurs dont on a besoin effectivement, qui n'existent pas à l'attention du consommateur, pour pouvoir lui faire prendre conscience de ce coût réel, de la matérialité de l'invisible.
Alors voilà une piste. Une autre piste, Françoise Berthoux, c'est celle du recyclage. Alors en première intention, on se dit que c'est un très bon moyen de limiter l'impact de la fabrication de smartphones. Voilà, tout simplement, on les recycle et c'est formidable. Sauf que là aussi, s'il y a des textes, des réglementations qui ont été adoptées ça et là pour favoriser justement le recyclage, d'abord on voit que le secteur du recyclage, il est très très loin d'être aussi vertueux que ce qu'on espérerait, Françoise Berthoux.
Alors, je vais répondre à votre question sur le recyclage, je voudrais avant ça
réagir
sur les pistes, parce que à mon sens, il y a deux autres pistes que vous n'avez pas évoquées, peut-être on en parlera plus tard,
mais elles sont
tellement importantes. La première, c'est d'augmenter de façon très significative la durée d'utilisation du téléphone. Ça, c'est une piste. Et la deuxième, c'est de réfléchir à est-ce qu'on pourrait pas se passer de ce genre de téléphone. C'est une autre piste. Il faut pas... moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça serait vraiment important d'essayer d'ouvrir les pistes possibles dans le cadre des changements à venir sur notre planète et de la nécessité d'agir pour lutter pas seulement contre le réchauffement climatique mais aussi contre tout ce dont on a parlé auparavant, l'épuisement des ressources et de la pollution, etc. Et s'en tenir juste à regarder comment est-ce qu'on peut un petit peu améliorer la fabrication des téléphones est un petit peu recyclée, pour moi, c'est rester du business as usual en modifiant juste à la marge. Je pense que vraiment, aujourd'hui, c'est essentiel de regarder d'autres pistes.
Sur le recyclage,
vraiment
Françoise Berthoux. Sur le recyclage.
Alors, je réponds sur le recyclage.
Je vous en prie.
Donc, le recyclage, il y a plusieurs problèmes qui se posent par rapport au recyclage. Le premier problème, c'est un problème de collecte. Il y a déjà dans le monde un énorme problème de collecte des équipements en fin de vie. C'est-à-dire on ne sait pas faire, on le fait très très mal. On estimait il y a quelques années qu'on collectait moins de 15% des téléphones dans le monde, collectés dans le but de recycler. Ça veut dire que l'essentiel encore aujourd'hui des téléphones qui sont vendus dans le monde... Soit ils restent stockés dans des tiroirs, ce qui est encore une solution pas trop pire, soit ils se retrouvent dans des poubelles inadaptées au recyclage, c'est-à-dire que dans ce cas-là, non seulement les métaux vont pas être récupérés, mais en plus, ça va polluer.
Bon, alors comment on fait ? Parce qu'il existe des réglementations. Si on prend par exemple le cas de l'Europe, vous disiez 15%, en France c'est exactement ça. On a seulement 15% des portables qui sont recyclés. Pourtant, il y a des réglementations européennes en termes de gestion des déchets électroniques. Comment ça se fait que ça fonctionne pas ? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça fonctionne ?
En fait, la législation européenne, d'abord, elle vous dit que c'est un déchet dangereux. Donc, il y a le petit logo interdit de mettre dans la poubelle normale. Et puis, elle impose aux constructeurs, aux fabricants, de mettre à disposition des bennes pour récupérer des conteneurs. Là, vous en avez maintenant chez tous les opérateurs téléphoniques, dans tous les grands magasins. Donc, de ce point de vue-là, il y a des efforts qui sont faits. Il y a des déchetteries spéciales. Enfin, dans toutes les déchetteries, il y a des bacs pour les déchets électriques et électroniques. Donc ça, si vous voulez, c'est fait. Après, ce qu'impose la directive, c'est de recycler. Une fois que le téléphone est arrivé dans la bonne filière, ce qu'impose la directive européenne transposée dans le droit français, c'est de recycler à un certain taux, qui est de l'ordre de 80% pour les téléphones. Mais quand l'Europe ou la France impose un taux comme ça, ça ne veut pas dire que 80% des métaux qui sont dans le téléphone vont être réinsérés dans une nouvelle chaîne de fabrication du téléphone.
On est très très loin du compte, oui.
On est loin de ça, en fait. Les 80%, ça veut dire que à la fin de la massification, du tri, du déchiquetage des équipements, des téléphones, vous allez avoir 80% de la matière qui va se retrouver sous forme de fractions et qui va partir après dans des usines très spécialisées, donc comme par exemple Umicore en Belgique, qui va, elle, être capable de récupérer des métaux. Et en plus, je finis là-dessus, sur la question des métaux, précisément, donc Guillaume Pitron disait qu'il y avait plus que 50 métaux différents dans un smartphone. Aujourd'hui, la meilleure usine du monde, elle est capable d'en recycler que 20. Les autres, qui sont en quantité minime, hein, il faut bien se rendre compte que la plupart des métaux dans un smartphone, c'est des quantités extrêmement basses. Hein. Par exemple, je sais pas, dans un téléphone, vous avez 10 mg d'or. C'est très petit. Vous avez 0,47 mg de tungstène.
Ouais, sauf que quand on le multiplie par le nombre de millions d'unités exactement. Que vous avez évoquées, ça devient très important. Guillaume Pitron, quand on regarde cette question du recyclage, en fait, faut parler argent une fois encore. C'est-à-dire pour comprendre pourquoi le recyclage ça marche pas, faut tout simplement se dire que pour un industriel, ça coûte toujours moins cher d'aller extraire sur place dans des mines des métaux rares que d'aller les recycler. Alors la question qui se pose, c'est que est-ce que, au fond, il faudrait pas essayer d'augmenter le coût d'extraction? Est-ce que ça pourrait venir, d'ailleurs, puisque vous nous disiez quand même que c'est des métaux rares, donc ça coûte de plus en plus cher de les extraire? Est-ce que finalement, naturellement, on va pas y arriver? Le recyclage va pas s'imposer de lui-même?
Tout procède de l'argent. Je suis désolé de le dire aussi bêtement. Françoise Berthoud l'a très bien dit, on sent bien à travers ce que dit Françoise Berthoud, c'est un problème technique, c'est compliqué d'aller extraire ces métaux qui sont dispersés par milligrammes dans des milliards d'objets, et on sait faire, on sait in fine récupérer les 10 milligrammes, mais on veut pas faire parce que ça coûte trop cher. Et ça coûte beaucoup moins cher d'aller à la mine. Et tant que le prix de la matière primaire, celle qui sort de la mine, sera moins cher que le prix de la matière secondaire, qui peut être réutilisé, eh bien, on s'en sortira pas. Et donc, soit on accepte de payer, et encore ce sera à la marge, mais nos téléphones portables un peu plus chers, soit on sera dans un système de moins 10 ans financier, et donc de moins 10 ans social, écologique, où il y aura toujours quelqu'un pour les proposer une matière à un prix qui est sous-évalué par rapport à son coût réel. Est-ce que ça peut changer? Eh bien, j'en suis pas sûr. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, oui, effectivement, la terre, il y en a de moins en moins, la ressource se raréfie, donc on peut penser que, compte tenu de la demande, eh bien, la tension fait que, d'un point de vue économique, les prix vont augmenter. Mais d'abord, on trouve toujours des nouveaux gisements. Les technologies d'extraction, d'extractivisme, sont toujours plus efficientes, et donc là, on pensait qu'on en avait plus. En fait, il reste un petit peu de métal au fond de la mine à aller chercher, et dans les rebuts. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine n'a aucune envie de vous vendre son métal plus cher. C'est pas très logique parce qu'on aurait tendance à dire puisqu'elle a tout le métal, puisqu'elle produit 95% des terres rares, elle va en profiter et puis elle va augmenter les prix, on va être de toute façon obligé de les lui acheter. Non, elle continue de baisser les prix pour qu'on n'ouvre pas d'autres mines. Et donc de la sorte, elle baisse les prix pour conserver finalement un monopole sur la ressource et pour continuer à rendre l'Occident dépendant de ses matières premières. Et donc pour des raisons qui sont purement géopolitiques et industrielles, qui sont très concrètement géopolitiques, eh bien en fait la Chine souvent le prix de la matière et donc du coup il n'y a aucune chance pour le recyclage à le bout de la chaîne, de pouvoir être compétitif si à Pékin, on a décidé que le monde continuerait à manger dans la main des Chinois.
C'est une catastrophe ce que vous nous dites. Françoise Berthoud, réaction. Guillaume Pitron nous fait quand même un tableau qui n'est pas très reluisant. On espérait que la raréfaction de ces métaux rares, de ces terres rares, faisait que leur prix allait naturellement augmenter et que du coup, le recyclage allait s'imposer. C'est loin d'être le cas.
Oui, et puis il y a d'autres facteurs qui jouent, notamment le fait que un certain nombre de ces métaux rares, là je parle pas des terres rares, mais de métaux rares, sont des sous-produits d'autres métaux. Par exemple, l'indium est un sous-produit du zinc. Et ce qu'on va extraire en premier, c'est le zinc, c'est pas l'indium. Et donc, une variation du prix de l'indium va pas forcément changer la façon dont on va exploiter la mine primaire. Donc le problème est assez complexe. Et visiblement, la plupart des gens qui ont regardé cette question de l'influence du prix sur la façon dont on extrait les métaux sont assez pessimistes, en tout cas sur l'effet levier à l'heure actuelle, sans compter que la variation de prix dans le produit terminal va être assez minime. Donc risque de ne pas être non plus un incitateur pour améliorer la collecte.
Je reviens sur une piste que vous donniez tout à l'heure, Françoise Berthoud. Vous disiez il faudrait que nos téléphones, eh bien, on les garde plus longtemps. Pendant très longtemps, je pense que c'est quand même en partie aujourd'hui encore le cas malheureusement, les industriels faisaient qu'on nous proposait des produits qui étaient précisément, qui avaient une certaine durée de vie. C'est ce qu'on a appelé l'obsolescence programmée. Est-ce que vous avez le sentiment que là, il y a quelque chose qui est en train de changer? Si je regarde par exemple du côté d'Apple, par exemple, il se trouve que l'année dernière, Apple a changé 10 fois plus de batteries que l'année précédente. Donc il y a eu un vrai changement. Est-ce que ça veut dire que Apple, pour ne pas le citer, est en train de revenir un petit peu sur cette obsolescence programmée, ou est-ce que c'est autre chose?
Alors, la question de l'obsolescence programmée, c'est une question qui pourrait être vue d'une façon relativement simple. Si on pense que l'obsolescence, elle est liée seulement à des aspects techniques qui sont liés à un équipement donné. Mais en fait, cette question de l'obsolescence, elle prend tout son sens quand on regarde le problème de façon systémique, et notamment quand on regarde l'impact de la couche logicielle sur l'obsolescence des équipements.
C'est-à-dire,
parce que en fin de compte, quand vous avez à changer, par exemple, votre smartphone ou votre téléphone, bon, concentrons-nous sur le smartphone. La plupart du temps, c'est pas parce qu'il fonctionne plus. La plupart du temps, c'est parce que vos applications rament. Et en fait, les gens qui développent, il y a des communautés énormes aujourd'hui qui développent des logiciels, ils n'ont pas comme philosophie de limiter l'utilisation des ressources. C'est quelque chose qui s'est perdu avec le temps. On travaillait à la limitation d'utilisation des ressources au début de l'informatique. Aujourd'hui, il y a une impression d'infinité de ressources qui fait que c'est quelque chose qu'on ne regarde plus. Et la plupart du temps, quand vous changez votre ordinateur, c'est pas parce qu'il marche plus, c'est parce que vos applications rament. Et c'est pareil sur un smartphone.
Et c'est pas en train de changer.
Et ça, c'est pas en train de changer.
Guillaume Pitron.
Je voudrais peut-être juste vous dire, c'est un chiffre aussi qui peut prêter à l'optimisme. Quel est le prix de la matière première dans un téléphone portable de 500 €?
Aucune idée.
3 €. 3 €, c'est le prix de l'ensemble des matières premières dans un téléphone portable. Le reste du prix, si on regarde la structure du prix, c'est le service, le marchand, la recherche développement, ouais. L'actionnaire, etc., etc. Donc, vous voyez, 3 €, à supposer qu'on recycle tout, ça coûterait quoi? 6 €? 9 €, voilà. Ça, c'est la différence de prix qu'on n'est pas en capacité de mettre aujourd'hui dans nos sociétés occidentales et autres dans le monde entier pour avoir un téléphone qui soit un peu plus éthique. Ce que je veux dire aussi, c'est que peut-être que finalement, ce portable plus éthique dont vous parlez tout à l'heure, il est à portée de main. Au propre qu'on me figurait.
Vous parliez de la question des logiciels, Françoise Berthoud. Parlons un tout petit peu de la question des batteries, parce que ces dernières années, les fabricants de smartphones ont fait énormément d'efforts pour améliorer les performances de leurs batteries, et avec évidemment des résultats très intéressants. On a augmenté les capacités, on a augmenté les durées de vie. Donc, en théorie, ce qu'on se dit, c'est que c'est hyper bénéfique pour l'environnement. Sauf que, en pratique, vous racontez ça notamment dans votre ouvrage, mais aussi dans une conférence que j'ai regardée hier pour préparer cette émission, vous dites que c'est pas du tout le cas. Il y a des effets rebonds, il va falloir nous expliquer ce que c'est, qui font que les gains attendus sont pas au rendez-vous, Françoise Berthoud.
Et oui, c'est... En fait, chaque fois qu'on optimise un processus, Comme la nature a horreur du vide, ou on va dire l'économie a horreur du vide, eh bien, les gains obtenus sont immédiatement compensés par autre chose. Donc, prenons l'exemple du smartphone, avec donc des batteries où on fait des progrès, mais vraiment colossaux, c'est indéniable. Pour autant, vous rechargez toujours, enfin, l'utilisateur moyen recharge toujours son smartphone une fois par jour. Quand il en a une utilisation, disons, haute. Eh bien, ça, c'est lié au fait que, en dépit des progrès, en dépit même des progrès éventuels de certains développeurs, on a toujours de plus en plus d'applications qui tournent sur nos smartphones. Et du coup, on continue de consommer la même chose, voire plus. Ça, c'est typique, ça s'appelle l'effet rebond, ça existe dans tous les domaines, ça existe sur les serveurs, ça existe sur, dans l'utilisation du charbon, c'est d'ailleurs autour de ces technologies que ça a été mis en évidence tout au début, mais c'est un effet qui est structurel, qui est lié à la façon dont l'économie fonctionne, et en tout cas, qui aboutit au fait qu'on ne va pas naturellement vers de la sobriété.
On est avec vous, Françoise Berthoud, en duplex depuis Chambéry, mais également Guillaume Pitron, dans cette série consacrée à la téléphonie mobile, dans ce monde sans fil, aujourd'hui la fabrication des smartphones, un désastre écologique et humain. Toujours avec Françoise Berthoud, Guillaume Pitron, autour de ces questions de la téléphonie mobile et de ses impacts écologiques, humains, sociaux. On va retrouver une nouvelle invitée pour parler du marché du téléphone d'occasion. C'est Dominique Roux. Bonjour Dominique Roux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure de marketing à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes et puis cofondatrice d'Alcor, qui est une communauté multidisciplinaire de chercheurs qui explore des phénomènes de consommation alternatifs et émergents. Le marché du téléphone d'occasion, selon l'Institut GFK, alors pour le marché du neuf, on a eu une baisse là en 2018 de 6,5%. Et en revanche, celui du reconditionné, lui, il a progressé de 7% pour atteindre 2,1 millions d'unités vendues en France. Alors on va essayer de comprendre comment ce marché de l'occasion se façonne et à qui est-ce qu'il profite. D'abord, il faut dire qu'il a toujours existé ce marché de l'occasion dans la téléphonie mobile, mais pendant longtemps, c'est resté vraiment un marché de niche et aujourd'hui, il s'est démocratisé. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est parce que précisément on a pris conscience de tous les effets néfastes de la fabrication de nos portables ou est-ce que c'est autre chose finalement qui fait que le consommateur se tourne vers l'occasion ?
Alors, il y a plusieurs raisons, en fait, qui peuvent expliquer l'essor de ce marché. Tout d'abord, il y a une généralisation du marché de l'occasion. Il faut voir que ce phénomène d'achat de biens de seconde main n'est pas si récent que ça. En fait, son vrai développement commence déjà dans les années 80. Pour ce qui concerne vraiment spécifiquement la téléphonie mobile, on a plusieurs facteurs aussi qu'il faut prendre en compte. D'une part, les prix augmentent constamment. Mmh. Et le rythme de renouvellement des produits s'accroît, ce qui fait qu'au fond, un téléphone mobile aujourd'hui, c'est un bien qui est à cheval entre un produit de consommation parce qu'il est renouvelé très ou trop rapidement, en tout cas plus rapidement qu'avant, et puis un bien d'équipement en raison de son prix. Donc c'est déjà un premier facteur. Tant que les générations de produits succédaient à un rythme raisonnable, on les gardait plus souvent, et c'est un peu ce que j'entendais dire de par Françoise Berthaud tout à l'heure. La deuxième raison, c'est que l'innovation incrémentale, depuis un certain temps, elle est relativement faible, ce qui fait que la dernière version n'est pas si décotée que cela, par rapport à la version précédente. Donc ce rythme de renouvellement ne s'accompagne pas de sauts technologiques majeurs. Ce qui fait qu'au fond, la décote de la dernière version, eh bien, elle n'est pas si grande que ça. Donc tout ça milite aussi en faveur d'un marché d'occasion florissant.
Il y a peut-être un autre élément qu'on peut rajouter, Dominique Roux, c'est qu'avant, les consommateurs achetaient des smartphones avec une subvention en souscrivant à des forfaits chez un opérateur. L'apparition de forfaits low cost, des forfaits à bas coût, ces subventions, elles ont disparu et donc elles ont fait apparaître d'une certaine manière le vrai prix du portable au consommateur qui, du coup, s'est tourné vers l'occasion. À qui est-ce qu'il profite, Dominique Roux, ce marché de l'occasion aujourd'hui? Est-ce que c'est des toutes petites entreprises comme ça, un petit peu éparses, ou est-ce qu'on a vraiment maintenant aujourd'hui de gros acteurs qui ont su s'imposer sur ce marché?
Alors justement, j'allais rajouter aussi une cause ou un facteur qui favorise le développement de ce marché, c'est l'arrivée de ces intermédiaires qui vont intervenir comme tiers de confiance en apportant, au-delà de ce qui se passait sur les marchés classiques d'occasion pair à pair, de consommateur à consommateur, en leur apportant une expertise technique des produits et un service de réparation. Et en fait, ce service leur permet de recréer du comme neuf, ce que ne font pas les particuliers entre eux. Au fond, quand on achète sur Le Bon Coin, on accepte le téléphone avec sa rayure et on ne peut pas accéder à une offre comme neuve. Or, ce que font ces intermédiaires, c'est de rétablir du comme neuf.
Des intermédiaires, mais est-ce qu'on a des gros acteurs? Je repose la question.
Ah ben, ils commencent à se structurer, et à capter une grande partie. On voit une entreprise comme Remade va commencer à capter, enfin espère capter une grande partie de ce marché.
Alors, Dominique Roux, puisque les consommateurs se tournent de plus en plus vers de l'occasion et intègrent cette logique de la réparation finalement, est-ce que ce nouveau comportement, il pourrait avoir des effets pour les constructeurs? Est-ce que par exemple, les constructeurs pourraient se dire, on va faire des smartphones qui durent plus longtemps, quitte d'ailleurs à accompagner leur vente d'un service de réparation dont ils pourraient aussi tirer un bénéfice?
Alors c'est en fait, on peut espérer d'une certaine manière parce que c'est, alors je vais essayer d'en faire un propos peut-être un peu général et peut-être un peu plus optimiste, bien que je rejoigne tout à fait ce qu'ont dit vos deux interlocuteurs, c'est qu'au fond c'est le consommateur qui finit par moraliser l'activité des entreprises à un certain moment, ou des intermédiaires qui se glissent dans un marché pour justement répondre à un certain nombre de besoins ou de demandes des consommateurs et qui obligent au fond les fabricants conventionnels à réagir. Oui, donc en fait, par exemple, des téléphones facilement réparables qui sont conçus pour qu'il y ait un accès des consommateurs ou de réparateurs un peu experts à l'intérieur, c'est sûr que ça va inciter les fabricants à regarder les choses différemment. Il y a un autre phénomène qui se développe en ce moment sur l'informatique, qui est celui des indices de réparabilité aussi, qui commencent à se mettre en place. Donc quand on va avoir un classement, enfin une façon d'évaluer les produits aussi sur ces critères-là, je prends l'exemple de l'indice de réparabilité FNAC, qui s'est mis en place qui est le premier du genre sur l'informatique, on voit bien que, par exemple, il y a un quart des points qui sont mis sur la modularité et l'accessibilité aux composants, un quart des points qui est mis sur les pièces détachées et un quart des points qui est mis sur la réinstallation logicielle. Donc, tout ceci milite pour que les consommateurs sachent aussi à quoi ils ont affaire et que ça généralise aussi une idée ces idées un peu plus soutenables de ce qu'on fait des produits et ce qu'on achète.
Ouais, c'est assez fascinant de voir au fond la puissance du consommateur. On ne l'imagine pas toujours.
Indirect. Enfin, des fois direct, des fois indirect. Et en l'occurrence là, c'est souvent les intermédiaires. C'est exactement la même chose sur le marché de l'occasion au fond. Ce sont ces acteurs type eBay, Price Minister, Le Bon Coin, etc., qui sont venus bousculer aussi l'offre conventionnelle en privant le marché du neuf d'une partie de ses revenus parce qu'ils intermédiaient une vente directe entre les gens.
Guillaume Pitron, tout dernier mot, on arrive au...
Tout dernier mot, économie circulaire, c'est pas seulement le recyclage, voilà, c'est aussi la réparation, c'est la réutilisation. Précision faite que ça va créer beaucoup plus d'emplois que le recyclage. Donc on a intérêt en France de réparer.
Ce qui est quand même décisif. Merci infiniment dans un pays comme le nôtre qui est touché par le chômage de masse depuis tant d'années. Un grand merci à tous nos invités. Dominique Roux qui était à l'instant par téléphone, Françoise Berthoux qui était avec nous en duplex de Chambéry. Je rappelle pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus que vous êtes co-auteur de cet ouvrage « Les impacts écologiques des technologies de l'information et de la communication » qui était paru chez E2P Science. On met en référence évidemment sur la page de Culture Monde. Un grand merci à vous Guillaume Pitron de nous avoir éclairé également. Je rappellerai vous concernant La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, préfacée par Hubert Védrine au lien qui libère, prix du livre Économie 2018. Merci infiniment. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.